BW. Économie et développement.
Dans ce numéro de votre magazine, nous abordons aujourd'hui un sujet brûlant dans le secteur des hydrocarbures africains. L'annulation récente en République démocratique du Congo du processus d'attribution de 27 blocs pétroliers, un processus initialement lancé en juillet 2022. Quels sont les enjeux économiques et environnementaux, voire politiques de cette décision? On en parle dans la première partie. Et puis nous irons au Burundi, où la redynamisation de la filière caféicole est un enjeu crucial pour l'économie. Cette revitalisation passe par plusieurs initiatives qui permettront de promouvoir le café burundais à l'international pour valoriser ses spécificités sur le marché mondial. Économie et développement, c'est Rodrigue Guezodia au micro. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous.
DW.
En juillet 2022, le gouvernement de la République démocratique du Congo avait lancé un processus d'attribution de 27 blocs pétroliers pour renforcer son développement économique. Le but de l'appel d'offres était donc non seulement d'attirer des investisseurs dans le vital secteur des hydrocarbures, mais aussi de dynamiser la production pétrolière, de créer des emplois et de générer des revenus pour le pays. Depuis les premières explorations dans les années 1940, pendant l'époque coloniale, et l'exploitation depuis 1963 dans les zones offshore, le secteur des hydrocarbures n'a jamais contribué considérablement à l'économie congolaise. En 2020, par exemple, la RDC produisait un peu moins de 9 millions de barils de pétrole brut et la contribution de l'exportation du pétrole brut avait une valeur d'environ 390 millions de dollars américains, ce qui représentait à peine 3% du volume total des exportations du pays. C'est donc pour changer la donne que le gouvernement avait entre-temps lancé l'appel d'offres portant sur l'attribution des 27 blocs pétroliers. Mais ce projet a rapidement rencontré des obstacles. Le processus, qui a pourtant suscité l'intérêt de grandes multinationales, n'aura pas donné les résultats escomptés, d'où son annulation par le ministre des Hydrocarbures. Une mesure que salue Jimmy Munguriek Ufoy, directeur de Resource Matters en RDC, une organisation membre de la coalition Le Congo n'est pas à vendre.
D'abord, la sélection même des blocs à soumettre aux appels d'offres n'a pas été respectée. Il y avait l'opacité totale dans le processus pour voir pourquoi on a reporté plusieurs fois. Aussi, ce défaut de concurrence, parce que déjà, lorsque les appels d'offres ont été lancés, il y avait des préférences que le ministre avait déjà par rapport à certains investisseurs. Je donnerai le cas de Perenco, qui finalement avait obtenu deux blocs, mais qui ont tout de suite renoncé. Il y avait des négociations clandestines qui ont été signalées avec la société Sinoc, qui est du côté ougandais. Il y avait justement cet accord avec un homme d'affaires nigérien qui a mené entre guillemets les études et qui devait prendre deux blocs de son choix. Il y avait pas mal de problèmes qui ont été inventoriés à l'époque. Et pour nous, le fait que ces processus soit annulé, c'est une manière de reconnaître que ce que nous avons décrit au début de ce processus-là, c'était vrai.
C'est également l'avis de l'ONG APEM, Action pour la promotion et la protection des peuples et espèces menacées, que représente Maître Laurette Kabedi d'Isanka. Mais la chef de projet des menaces des industries extractives qui pèsent sur les habitants du Grand Singe dans le bassin du Congo estime que ces mesures ne devraient pas se limiter qu'à ces blocs pétroliers.
La décision devrait être prise pour tous les blocs, y compris les trois blocs gaziers qui ont déjà des contrats acquis dans le même processus entaché d'irrégularité. Cela nous amène un peu d'inquiétude, surtout au niveau de la promesse du gouvernement de pouvoir relancer le processus incessamment en respectant les procédures comme il le prétend. Mais cela ne nous empêche pas, en tant que défenseurs de droits de l'environnement et de droits des communautés, de pouvoir veiller au respect de lois et engagements de notre pays dans tout ce qui se fera dans le secteur des hydrocarbures par la suite.
Justement, pour la suite, Maître Laurette Kabedi, quelles réformes ou mesures devraient être mises en place pour améliorer le processus d'appel d'offres et attirer des offres pertinentes à l'avenir.
Cette question me donne un peu de sourire là, parce que je me dis, en RDC, nous avons tout. Toutes les lois sont là. C'est la mise en application qui pose problème. Toutes les lois sont là, le cadre institutionnel est là, nous avons tout. Nous pensons qu'il faudrait partir des expériences que nous avons sur l'exploitation des hydrocarbures en RDC, précisément dans la ville de Mwanda, où les conséquences néfastes sont visibles. Il y a eu le problème de la myopie, de coulement de sang au niveau des narines, voire même le problème de mérissement prématuré de fruits, l'assèchement des eaux, de rivières, l'assèchement d'arbres, le meurtre de poissons. Ce sont des conséquences néfastes visibles. Alors nous devons d'abord partir de l'expérience que nous avons avec l'exploitation des hydrocarbures à Mwanda. Et les communautés qui dépendent de ces forêts-là, les communautés sont fragilisées.
Au-delà des préoccupations environnementales soulevées par le processus, du fait notamment que plusieurs blocs étaient situés dans des zones écologiquement sensibles, l'annulation de ce processus pourrait avoir aussi des répercussions économiques pour la RDC, notamment en termes de manque à gagner pour le gouvernement. Pourtant, il y a des signaux de reprise, le gouvernement prévoyant de relancer cette procédure sous de nouvelles conditions. Pour Jimmy Munguriek Ufoy, directeur de Resource Matters en RDC, un certain nombre de facteurs sont indispensables.
Évidemment, le premier facteur, c'est le sérieux que le gouvernement met dans le processus, la transparence et la redevabilité. Mais au-delà de ça, le facteur important d'attractivité, c'est la rentabilité du pétrole. Et aujourd'hui, dans notre étude que nous avons publiée à l'époque, sur laquelle le ministre revient aujourd'hui, ce que le gouvernement lui-même ne maîtrise pas, les sous-sols. Le pétrole, c'est à quelle quantité? C'est quel type de pétrole? Comment il peut être exploité? Comment il serait évacué en cas d'exploitation? Donc, l'attractivité ne dépend pas seulement de l'annulation, mais de tous ces paramètres-là.
L'annulation de ce processus d'attribution des blocs pétroliers en RDC reflète à la fois des défis techniques et des enjeux environnementaux. Alors que le pays s'efforce de valoriser ses ressources naturelles, il devra trouver un équilibre entre développement économique, préservation de l'environnement et attractivité pour les investisseurs.
DW.
Dans la seconde partie d'économie et développement, nous parlons de la redynamisation de la filière caféicole au Burundi. Un enjeu crucial pour l'économie du pays, où le café constitue une des principales sources de devises. Le ministère burundais chargé de l'agriculture multiplie ces derniers jours des initiatives de restructuration du secteur. En plus du marché européen pour l'exportation du café burundais, le pays vient de signer des contrats d'exportation sans intermédiaire avec les États-Unis et la Chine. Alors que les producteurs burundais de café sont les moins payés dans la sous-région, l'espoir renaît donc avec ces nouveaux marchés d'écoulement et ils espèrent une hausse des prix. C'est le reportage de notre correspondant au Burundi, Anthony Destiny-Ragira.
Nous sommes à Ptaganzwa, dans la province de Kayanza, à 92 km au nord de Bujumbura. Bastion historique de la caféiculture, la zone compte des centaines de producteurs de café dont la qualité est parmi les plus appréciées sur le marché international. Martien est âgé de 58 ans. L'homme aux cheveux noirs et blancs s'investit dans la production du café depuis une cinquantaine d'années. En cette fin de campagne caféicole, Martien s'occupe du paillage de son caféier en attendant la prochaine saison.
Compte tenu des efforts que nous fournissons dans la production du café, franchement, nous ne gagnons pas grand-chose par kilo. Comme le pays vient de trouver d'autres marchés, nous espérons que nous, les caféiculteurs, allons vraiment en profiter. Nous nous attendons à la hausse du prix au kilo pour nous encourager à produire du café de qualité. Le café s'achète à 1380 francs le kilo. Mais vu comment nous nous sacrifions pour l'entretien des caféiers, il va falloir qu'on nous paie au moins 3000 francs au kilo.
1380 francs burundais le kilogramme de café, c'est l'équivalent d'au moins d'un demi-dollar. Principale source de revenus de la région, la caféiculture occupe des centaines de familles dans cette province la plus peuplée du Burundi. Pour Martien, il faut viser non seulement la quantité, mais aussi la qualité de la production pour redynamiser le secteur. Le cinquantenaire, caféiculteur et coach caféicole espère qu'avec l'extension du marché des colomas du café, le prix sera revu à la hausse chez les producteurs. De quoi se réjouir.
Nous ne cessons pas d'inciter nos collègues producteurs à prendre soin du café afin d'obtenir une production de première qualité sur le marché international. Cette année, j'ai eu largement au-delà de 1000 kg de café. C'est pour la première fois. Avant, je récoltais environ 300 ou 250 kg. Beaucoup de personnes s'attendent à la revalorisation du café et commencent à demander des plans pour que prochainement, ils puissent bénéficier de la hausse du prix du café.
En octobre 2017, lors de la vente aux enchères du café à Boston, aux États-Unis, le café burundais a battu le record mondial pour sa qualité. Inspiré de cet événement et de l'actuelle diversification des preneurs du café burundais, les intervenants dans le secteur réveillent leur conscience. Les associations des producteurs de café s'attellent à la campagne de sensibilisation des caféiculteurs pour une production de qualité irréprochable. Jean-Pierre est le représentant légal de la Confédération nationale des associations des caféiculteurs du Burundi.
On écoulait le café vers l'Europe, certains pays africains et même vers les États-Unis d'Amérique. S'il y a d'autres acheteurs, c'est un avantage pour les caféiculteurs parce qu'il y aura une compétition et le mieux-disant sera preneur. Quand il n'y avait que les Européens et les Américains pour acheter le café, le cultivateur n'avait pas le choix. Nous sensibilisons les producteurs à l'extension des plantations, à l'augmentation de la production et à l'usage du fumier organique et minéral en vue de densifier la production de qualité. Nous constatons qu'avec le marché chinois, il y aura une valeur ajoutée.
La présence d'intermédiaires appelés autrement commissionnaires dans le processus d'exportation du café entraîne des tentatives de corruption. Les effets impactent la fixation des prix qui compromet aussi les efforts des caféiculteurs. Les producteurs du café burundais restent moins payés comparés au reste de la sous-région. Ils devraient profiter de la diversification des marchés avec les récents accords d'exportation du café burundais vers la Chine et les États-Unis, en plus du marché européen, selon les activistes anticorruption. Jean Douimana est le porte-parole de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques au Burundi.
Il faut que les cultivateurs aient un prix un peu élevé par rapport au prix du passé. Il faut laisser aussi la compétition parce que le commerce n'a pas de frontières. C'est le prix qui détermine celui qui veut acheter son café. Même les entreprises américaines et les entreprises européennes peuvent faire la compétition avec la Chine. Il faut qu'il y ait vraiment une compétition pour que celui qui veut acheter le café burundais donne un prix réel qui va encourager les cultivateurs du café. C'est là où le café burundais va se développer.
Introduit au Burundi au début des années 1930 et pendant la colonisation, le café est resté à ce jour en tête des cultures d'exportation au Burundi. La caféiculture occupe des centaines de milliers de familles dans le pays. Les principales exportations du Burundi restent des produits primaires tels que le café et le thé, qui représentent une bonne partie des rentrées en devise. Anthony Testeniragira à Bujumbura pour la Deutsche Welle.
C'est avec ce reportage d'Anthony Testeniragira que se termine ce numéro d'économie et développement. Merci à Maître Laurette Kabedi Disanka de l'ONG APEM et Jimmy Munguriek Ufoy de Resource Matters en RDC. Je vous remercie aussi d'avoir suivi ce magazine que vous pouvez réécouter ou télécharger sur notre site www.dw.com/français. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.